Quels sont nos sentiments face à la mort d'un proche? Que disons-nous? Il s'est éteint. La mort est silencieuse, nous sommes dans la déchirure, l'absence est cruelle. Quels sont nos sentiments face à une naissance? Que disons-nous? Il est vivant, c'est une lumière, il a poussé son premier cri, il illumine notre vie. Hier, Christ était encore dans la tombe, aujourd'hui il est ressuscité. Face à nos morts, il est la vie. Dans nos obscurités, il est la lumière. Au creux de nos silences, il est parole. Sur nos tristesses, il est la joie de Dieu. Christ est ressuscité pour nous. Il vit, il est vie et lumière. Il est parole qui chasse les ténèbres. Son évangile nous renouvelle et renouvelle notre terre. Réjouissons-nous de rendre ensemble un culte à notre Dieu. Je vous invite à vous lever pour chanter le premier cantique qui se trouve dans le petit livret au tout début, en fait, au tout début du cahier, enfin du recueil. Nous louons Dieu avec le psaume 33. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Et nous chantons le psaume 33, donc le même psaume, nous le chantons, page 56, les strophes 1, 2 et 5. 1, 2 et 5, page 56. Réjouis-toi, peuple fidèle. Prenez place. Alors, bienvenue à vous qui n'avez pas profité du week-end long, ou au contraire, qui en avez profité et qui êtes là, possible. Que vous soyez donc d'ici, de passage, que vous soyez des habitués ou que vous veniez pour la première fois, vous êtes ici chez vous, dans la maison du Père. Aujourd'hui, on m'a demandé d'avoir une pensée, que nous ayons, pardon, une pensée, une prière particulière pour Alexandre, qui a des problèmes de sa santé, donc nous penserons à lui dans nos prières. Et nous aurions dû tout à l'heure aller voir Monique et Pierre Repentin, après le culte, pour poursuivre leur culte un peu avec eux, mais ils sont probablement un peu fatigués, ils ont décidé de reporter ça, mais on peut les porter nous aussi dans la prière pour ce temps-là. Je vous invite à placer notre vie sous le regard de Dieu. Dieu vivant, nous agissons, nous aimons, nous pensons comme si Jésus n'était pas vraiment ressuscité. Nous vivons comme s'il ne nous avait pas vraiment délivré de ce qui nous accable. Dieu vivant, nous reconnaissons devant toi que nous ne débordons pas de joie quand nous célébrons la résurrection de ton Fils. Trop souvent, nous préférons nos succès à sa victoire. Dieu vivant, tu veux changer nos cœurs. Par le pouvoir de ton Fils ressuscité, fais de nous des créatures nouvelles, capables d'aimer et de servir. Transforme-nous à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous la joie de ta vie. Nous restons assis pour chanter « Tel que je suis ». Recevoir le pardon de Dieu, c'est dire oui à la vie tout entière. Hier est passé, demain n'est pas encore là, aujourd'hui, Dieu est parmi nous. Dieu libère en Jésus-Christ, qu'il nous conduise à dire oui à la vie tout entière, oui, jusqu'à la vie éternelle. Je vous invite à vous lever. Dieu nous accueille et nous pardonne en Jésus-Christ. Par lui, nous devenons ses enfants. À toi, nos louanges. Pardonnez et libérez, écoutons ce que Dieu nous demande et nous donne la force de faire. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur et devenant semblable aux humains. Pour qu'aujourd'hui, je sois libre. Thank you. Deux lectures aujourd'hui, en fait c'est une seule lecture mais coupée en deux. C'est l'évangile du jour, dans l'évangile de Jean, le chapitre 14, les 12 premiers versets. Mais avant de les écouter, nous prions. Seigneur, tu as créé un événement unique, Christ est ressuscité. Qu'à cette annonce, la joie règne dans nos cœurs, que nos vies proclament tes louanges. Christ est ressuscité. C'est toi, Seigneur, qui as créé cet événement à nul autre pareil. Alléluia.
Jean, chapitre 14, versets 1 à 8. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez. » Et vous l'avez vu.
Jean chapitre 14. Nous lirons du verset 9 au verset 12. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, « Montre-nous le Père? » Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. »
Nous chantons « Parle-moi ». Pas simple, hein, le passage. J'avais dit d'ailleurs, j'ai demandé, ils l'ont fait, au lecteur de le lire lentement, parce que chaque phrase a son poids et il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur ce passage. C'est un passage que j'emploie d'ailleurs volontiers pour les services funèbres, parce que je trouve qu'il s'y prête bien, mais moi aujourd'hui, surtout, je suis content d'y retrouver Thomas. Le Thomas de l'évangile de Jean. En quelques semaines, c'est la troisième fois que nous le retrouvons. Nous l'avions rencontré à Pâques et quelques dimanches encore avant, dans l'épisode de la résurrection de Lazare. Quand Thomas sort du lot, il est toujours question de mort et de résurrection. Notre épisode se situe entre les deux autres rencontres. Et toute celle-là se passe d'ailleurs dans un temps très réduit, hein, une période très courte. Et là encore, aujourd'hui, nous parlons de résurrection. Alors c'est un peu moins direct que dans les deux autres cas, mais il paraît assez clair que c'est de cela dont Jésus parle. C'est de cela que Jésus parle quand il dit « Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » Le lecteur, nous, le lecteur, on est d'autant plus conscient que Jésus est en train de faire ce qu'on pourrait qualifier de discours d'adieu à ses disciples. Lors du culte de Pâques, j'avançais que si Thomas n'était pas présent avec ses condisciples au moment où Jésus leur apparaît, c'est parce que, contrairement à eux, il n'avait pas peur, donc il était sorti. Et mon hypothèse se confirme ici. Alors que Jésus fait des belles promesses, et que les autres écoutent sans doute avec un grand respect, Thomas se distingue une fois de plus. Thomas, lui, ne s'en laisse pas compter. Des belles promesses, les phrases compliquées, ça ne le satisfait pas. Probablement, ça le chagrine, même un peu. Il veut comprendre. Il refuse de se payer de mots. Et il faut du courage. Il faut du courage pour dire comme ça, publiquement, qu'on ne comprend pas. Durant mes études, j'ai été mis en garde contre ce fait. Notre professeur de milétique, c'est-à-dire de prédication, nous avait prévenus. Si une personne, à la fin du culte, en vous saluant, vous dit « C'était très bien, monsieur le pasteur », ça veut dire qu'elle n'a rien compris. Et comme elle n'a rien compris, elle s'imagine, quand je dis « elle », c'est la personne, hein, vous avez compris, elle se dit que ça doit être très intelligent, voilà. Alors une fois, j'ai déjà raconté cette histoire dans une église que je ne connaissais pas et qui ne me connaissait pas, et j'avais rapporté donc ces mêmes paroles de mon professeur. Et à la sortie du culte, une dame est venue me saluer en sortant avec un sourire entendu. Elle m'a dit « Ce n'était pas très bien ». Alors j'ai mis un peu de temps avant de comprendre l'allusion. Toujours est-il que généralement, quand on ne comprend pas, on ne dit rien. Soit qu'on s'en fiche un peu et qu'on laisse passer, soit on craint de passer pour un idiot et on fait semblant d'avoir compris. Or, ce n'est pas le genre de Thomas. Il est le petit garçon qui ose poser la question. « Papa, pourquoi le roi, il est tout nu ?» Thomas n'a pas peur de passer pour un idiot, pas peur de se faire moquer par ses camarades, pas peur de se faire rabrouer par son maître. D'ailleurs, rien de tout cela n'arrive. Ses condisciples ont dû se réjouir que quelqu'un d'autre se mouille pour eux, et Jésus d'ailleurs ne l'a pas mal pris. Il faut reconnaître que la remarque de Thomas n'était pas très respectueuse. « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin ?» Se disant, il avoue qu'il ne comprend rien à ce que vient de dire Jésus. Or, ce dernier ne réagit donc pas mal. Il n'y a nul reproche dans la réponse de Jésus à Thomas, contrairement à celle qu'il adressera tout à l'heure à Philippe. Oui, dans la réponse à Philippe, il y a sinon des reproches, du moins de la déception. Il y a longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe ? C'est un reproche quand même. Et pourquoi alors cette différence de traitement entre Philippe et Thomas ? Parce que l'incompréhension des deux disciples ne porte pas sur la même chose. Thomas, d'abord, ne comprend pas ce qui va se passer. Il ne comprend pas ce qu'est Jésus, par où son chemin doit passer. Et la question de Thomas donne à Jésus la possibilité d'affirmer une des phrases les plus connues de l'évangile de Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Trois identités de Jésus qui vont, pour ainsi dire, se révéler lors de la passion et de la résurrection. Thomas ne pouvait pas comprendre à ce moment-là. Bon, plus tard, il lui sera reproché de ne pas avoir compris plus vite. Mais pour l'instant, il ne peut pas comprendre les déclarations de Jésus. Sa question est celle de quelqu'un qui prend au sérieux la parole et qui, par conséquent, ne peut se contenter d'approximations. La réponse de Jésus n'est pas tellement plus explicite, vous remarquerez. D'ailleurs, ce n'est pas une réponse toute faite, prémâchée, mais une réponse qui invite au chemin. La question de Thomas est celle de quelqu'un qui écoute et qui cherche. Au contraire de celle de Philippe, qui est celle de quelqu'un qui n'a pas suivi, ce qui est un peu le comble pour un disciple. Mais si Thomas n'a pas compris ce qui allait se passer, Philippe, lui, n'a pas compris ce qui avait été vécu. Qui était Jésus? Quelle était son identité? Et ce, malgré le temps qu'il a passé à ses côtés. D'ailleurs, Philippe, ce n'est pas une question qu'il pose, mais un souhait. Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Philippe veut voir pour croire. Eh bien oui, mais ce n'est pas Thomas, vous voyez. Philippe n'a pas compris le lien qui unit Jésus à son Père, ni perçu que Jésus était lui-même le lien qui nous relie, nous, au Père. D'où la déception de Jésus. Philippe n'a rien compris de l'enseignement de Jésus. Sa demande n'a en fait aucun sens. Il demande à voir le Père. Or, Jésus lui dit, d'abord, tu l'as déjà vu, et on ne peut le voir qu'à travers moi. Philippe avait bien commencé, mais il voudrait le voir directement, ce qui est impossible. Personne ne va vers le Père sans passer par moi, dit Jésus. Il nous faut nous arrêter sur cette déclaration surprenante et pour certains gênante de Jésus. Il y a environ 10 jours, nous avions une pastorale consistoriale et d'usage au début de telles rencontres que l'un d'entre nous fasse une méditation suivie d'un échange sur le texte biblique du dimanche d'après. Or, comme le dimanche qui suivait, c'est-à-dire dimanche dernier, nous n'avions pas de prédication à préparer puisque c'était le culte consistorial, le collègue a choisi de nous présenter ce passage-ci, ce qui était fort aimable de sa part et qui m'a bien avancé. Or, l'un d'entre nous, je ne cafeterai pas, a émis toutes sortes de réserves vis-à-vis de cette phrase « Nul ne vient au Père que par moi ». Car, selon lui, elle serait employée par différents groupes ecclésiaux, plus ou moins fermés, plus ou moins sectaires, pour exclure du salut et de l'accès à Dieu tous les non-chrétiens, voire également tous les chrétiens qui ne penseraient pas comme eux. Or, je tiens à vous faire ici remarquer que Jésus n'affirme en aucun cas que nul ne vient à Dieu que par moi, mais qu'il dit « Nul ne va au Père, sinon par moi ». Ça peut sembler inconséquent ou de peu de choses, mais il y a toutes sortes de chemins qui mènent à Dieu, voies religieuses, philosophiques, contemplatives, sentimentales. Mais seule la foi chrétienne, ou les mouvements qui s'en sont inspirés, confessent Dieu comme Père. Dieu n'est Père que de Jésus-Christ. Et ce n'est que parce que Jésus nous a considérés, nous, comme ses frères et sœurs, que nous sommes de facto enfants du Père, enfants adoptifs, en quelque sorte. Donc la phrase de l'évangile de Jean n'a rien de sectaire, c'est un fait. Nul ne vient au Père sinon par Jésus. Cela n'exclut pas les autres relations à Dieu, mais elles ne sont pas des relations au Père. D'ailleurs, la phrase qui débute le petit discours de Jésus, il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon Père, laisse entendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de se retrouver en présence de Dieu. Il y a toutes sortes de demeures pour toutes sortes de gens, ayant eu toutes sortes de vies, toutes sortes de trajectoires, toutes sortes de croyances. Mais cette maison est celle du Père de Jésus. La maison de mon Père, dit-il. Si vous voulez qu'elle soit celle de votre Père, vous devez passer par l'adoption en Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit Jésus. Pour aller vers le Père, nous devons suivre Jésus-Christ et son chemin, notre chemin. Ce chemin passe par la croix, comme le comprendront ensuite Thomas et Philippe. Passer par la croix au sens spirituel, bien sûr, cela signifie renoncer à la puissance du monde, y compris et surtout celle exercée au nom de Dieu. C'est reconnaître dans la vie et la personne de Jésus, ce prophète crucifié il y a près de 2000 ans, l'image même du Père. C'est voir en lui la réponse à nos questions les plus profondes et le sens même de notre vie. C'est accepter que nous n'ayons de droit devant Dieu que parce qu'il accepte de nous les concéder. Thomas aura l'une des confessions de foi les plus fortes de l'Évangile, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et s'il peut le faire, c'est parce qu'il ne sera pas contenté d'écouter la musicalité des paroles de Jésus, mais qu'il en aura recherché le sens. Parce qu'aussi il aura compris le sens de la croix. Bref, il ne se sera pas contenté de comprendre ce qu'était Jésus, ce qu'il représentait, mais bien qui il était, son Seigneur et son Dieu, crucifié et ressuscité. Nous n'avons pas, quant à nous, l'excuse dont bénéficiaient Philippe et Thomas, celle de se trouver en amont de la crucifixion. Nous connaissons toute l'histoire à la fois tragique et ouverte sur l'espérance. En Jésus-Christ, nous avons vu le Père de Jésus qui est devenu notre Père. Ce que Philippe n'avait pas compris, et il avait des excuses pour cela, nous pouvons nous le comprendre, et surtout nous sommes invités aujourd'hui à le vivre. Croyez-moi, dit Jésus, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Amen. Mon Dieu, mon Père, cantique 43-06, page 641, nous chanterons les strophes 1, 3 et 4.
Moi, à la lumière,
Nous restons debout pour dire ensemble la confession de foi qui se trouve sur le petit livret tout à la fin, cette fois-ci, du psautier, celle qui porte le numéro 4. Je crois en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et en célébrions la bonté et la bonté. Il est la source de la vie. Je crois en Dieu qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur, mort et ressuscité, pour le pardon et la liberté de tous les humains. Il est le prix de notre vie. Je crois en Dieu qui, par son esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l'espérance de son royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Heureux qui se confie en toi. Place. Voici maintenant le moment de l'offrande. Cet instant annonce l'ère nouvelle du royaume. Et dans le royaume du Christ, il est naturel que le don de soi-même passe en premier. Voici devenu le moment du don, don d'amour et don de soi. C'est le moment de l'offrande. Seigneur, nous te présentons notre offrande. Permets-nous de l'employer à ton service et à celui de nos frères et sœurs. Amen. Nicolas. Alors j'en profite, je prends de l'avance, pour vous annoncer comment vont se passer à Seine. Nous allons tout à l'heure partager le pain et le vin, en fait c'est du jus de raisin. Chacun, chacune est la bienvenue s'il reconnaît Jésus comme sauveur, et nous formerons un cercle. On vous apportera le pain et le jus de raisin, on le mange au fur et à mesure qu'on nous le donne, et nous restons ensuite en cercle jusqu'à la fin du culte. Par conséquent, je vous invite à prendre avec vous, le moment venu, votre cantique. Sauf si vous connaissez le chant final par cœur, alors vous pouvez le laisser. J'essaye de meubler, mais ça va être à toi quand même. J'annonce.
Les annonces, la semaine prochaine, a priori, il n'y aura pas de culte de chorale mardi. Il n'y aura pas de chorale mardi. Il y a un culte samedi, en principe, samedi 9. Vincent se demande s'il sera tout seul ou pas, puisque c'est encore un week-end, un grand week-end avec le 8 mai, etc. Mais en tout cas, il y aura le culte.
De toute façon, pas tout seul.
Non, tu n'es jamais tout seul. Tu n'es jamais tout seul. Ensuite, il y a toutes les choses habituelles. Les amitiés judéo-chrétiennes, donc ils sont annoncés le 6 à 20h à la Puya, avec le sujet « Textes en fête ». Et sinon, pour la semaine prochaine, je pense que c'est tout.
Il y a la prière du matin.
Oui, mais par rapport aux choses habituelles. Norbert.
Oui, préciser quand même, parce qu'il ne va pas le faire, notre bon berger,
oui.
Que l'amitié judéo-chrétienne sera présentée, la conférence, c'est une double conférence, avec...
Ça sera plus simple au micro.
Bonjour à celles et à ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Oui, je vais le faire parce que je sais qu'il ne va pas le faire, lui. Donc, double conférence très intéressante, je suis certain, donnée à la Puya mercredi à 20h sur un thème qui va être très vite d'actualité, puisque, alors, double intervention, Patrick Chemla, médecin généraliste, qui va présenter Shavuot, la fête de Shavuot, et Vincent, notre bon berger, qui va présenter la fête de Pentecôte. Alors, quel lien entre les deux ? Shavuot, c'est l'une des trois fêtes de pèlerinage de la tradition juive qui célèbre notamment, pas seulement, mais notamment, le don de la Torah au mont Sinaï. Et puis, Pentecôte, la fête chrétienne, donc bientôt, qui célèbre l'effusion de l'esprit. Point de comparaison, pas de comparaison, mais de similitude. En fait, les deux interviennent 50 jours après. Shavuot, 50 jours après la fête de Pâques juive qu'on appelle Pessah, enfin que les Juifs appellent Pessah, et puis la Pentecôte qui intervient 50 jours après, j'ai dit oui, Pentecôte, oui, c'est ça, après la Pâque chrétienne. Donc je pense que Patrick Chemla et Vincent vont présenter les similitudes et puis aussi les différences. Je suis sûr que ce sera très intéressant. Merci.
Et c'est bon. Et voilà les annonces.
Bonsoir à tous, je vous souhaite la bienvenue. Parce que ma mère était membre de la paroisse, ici. Et moi, je suis membre de la paroisse. Et je ferai pareil que ma mère. C'était maman.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des humains. Nous te le présentons, tu en fais pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons, tu en fais pour nous le vin du royaume éternel. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Accueillons-nous les uns les autres dans la joie que nous recevons du Christ ressuscité. Seigneur notre Dieu et notre Père, quel bonheur de te dire merci. Quelle source de joie de t'adorer partout et à tout moment. Grâce à Jésus, ton Fils, c'est notre liberté. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir qui nous sommes vraiment. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où tout mal, toute larme et toute oppression disparaîtront. C'est pourquoi, avec les anges, avec tous ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous te chantons et nous te disons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Nous partageons un même pain.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit, le donna à ses disciples et leur dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps, donné pour vous. » De même, après le souper, il prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la donna à ses disciples et leur dit « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance répandu pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Faites cela en mémoire de moi. Nous nous souvenons de la mort de Jésus et de l'espoir qu'a fait naître sa résurrection. Nous confessons que nous sommes morts avec lui, que nous sommes ressuscités avec lui et que nous vivons dès maintenant de sa vie. Nous nous réjouissons parce que nous sommes libres désormais de nous abandonner en toute confiance à ton amour. Et parce que nous vivons au souffle de l'Esprit. Nous t'en prions, Dieu très bon. Donne-nous maintenant par ton Esprit de reconnaître dans ce pain et dans ce vin le corps et le sang de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Donne-nous de devenir semblables à lui, et fais de nous des frères et des sœurs confiants en ton amour de Père. Amen. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur qui la préside. Voici la joie que nous avons désirée, et c'est le Seigneur qui nous la donne. Voici le pain dont nous avons besoin, et c'est le Seigneur qui nous le distribue. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. Venez. Seigneur, nous voici devant toi avec notre faiblesse, et tu as dit « Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre ». Ainsi, membres d'une même famille, enfants d'un même Père, nous pouvons dire avec confiance « Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mettons pas
le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, rompu pour nous et pour tous les peuples. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang du Seigneur Jésus-Christ, versée pour le salut de tous. Toi, le ressuscité, tu nous as offert ton aide et ta présence, ton amour et ta vie. Que la reconnaissance jaillisse de nos cœurs, que l'amour fraternel anime nos actions. Pour ta gloire et pour la gloire du Père, à la lumière du Saint-Esprit. Seigneur, nous voici témoins de la résurrection. Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant. Sois avec nous quand nous apportons cette espérance à ceux qui sont dans la douleur. Et nous te confions aujourd'hui tout particulièrement Alexandre, Monique et Pierre, ainsi que tous ceux que tu as confiés à notre prière. Sois avec nous quand nous disons ce bonheur à ceux qui ne le partagent pas, quand nous annonçons cette paix à ceux qui sont divisés, quand nous proclamons cette certitude à ceux qui sont dans le doute. Car désormais, nous le savons, la vie éternelle est commencée, tu nous précèdes sur notre chemin. Amen. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Quand chacun de nous, sa vie grandisse, qu'il nous remplisse de foi et de courage, de simplicité et de paix. Allons avec le Seigneur ressuscité dans le monde qu'il aime. Amen. La paix du Seigneur. Pour son accompagnement à la musique. Merci à Yvan Serge et Nicolas pour leur accueil et bon dimanche à tous.
Merci.